Napoléon, légende et vérité. Un feuilleton radiophonique hebdomadaire d'après le livre d'Henri Guillemin. Adaptation et voix, Stéphane Verru. Une coproduction compagnie avec Vue sur la mer, Radio PFM. Avec le soutien du Conseil régional des Hauts-de-France. 50e épisode.
En 1812, Napoléon Bonaparte dirige contre la Russie une croisade européenne. C'est sa formule. Sous lui, l'Europe se lève contre la barbarie tartare. L'armée Babel qu'il a réunie compte près de 700 000 hommes, mais il y a là quelques 400 000 Allemands, Polonais, Italiens, Hollandais, Suisses même. Il s'imagine que ces asservis vont se faire tuer en sa faveur, alors que la plupart n'attendent que l'occasion de briser leurs chaînes. L'énormité des désertions pendant la campagne de Russie est passée sous silence par les chantres de l'épopée, de même que l'illusion dont parle le trésorier Mollien dans ses mémoires. Franchissant le Niémen, Napoléon croyait aller au-devant de profits gigantesques. Il s'en était ouvert à Mollien et comptait lever en Russie autant de contributions qu'il en avait tirées de la Prusse et de l'Autriche ensemble. Son langage aux soldats ne s'est pas modifié depuis 1796 et, dans l'ordre du jour qu'il lance le 6 septembre 1812 à 125 km de Moscou, à Borodino, il introduit les mots qu'il estime infaillibles. « Soldats, la victoire nous donnera l'abondance. » On sait la suite, ainsi que la phrase finale de son 29e et dernier bulletin « La santé de Sa Majesté n'a jamais été meilleure. » À la vôtre, pontonnier de la Bérézina. On sait moins qu'en 1813, le César tricolore qui s'était tant vanté devant sa plèbe et pour mieux la duper d'avoir fait valser les rois, tente de jouer la carte de la solidarité monarchique. N'a-t-il pas placé en seconde noce une princesse autrichienne sur le trône de France? Il est du syndicat maintenant, non? De la Sainte Alliance des rois contre les peuples? L'empereur en appelle à ses armées, toujours victorieuses. La galéjade est rude au lendemain des catastrophes d'Espagne et de Russie. Pour sauver l'Europe civilisée et ses souverains de l'anarchie qui les menace. Les rois vont faire la sourde oreille et, ce qui est plus grave encore, en France, la classe possédante s'irrite chaque mois davantage contre un protecteur jadis béni et qui devient positivement déplorable. Pour ces levées d'hommes, il a maintenant des façons qu'on ne saurait tolérer. Les riches peuvent toujours s'acheter des remplaçants, mais le rachat ne vaut que pour une levée. Et il faut sans cesse recommencer à payer. Le remplaçant, d'ailleurs, profitant de la situation, se fait hors de prix. C'est un scandale. Il y avait aussi ces exemptions pour raisons de santé que les notables obtenaient, dans bien des cas, aisément au profit de leur fils. C'était la solution idéale et gratuite, moins l'enveloppe, parfois, bien sûr, au médecin-major du conseil de révision. L'empereur récupère à présent par légion ses bienheureux exemptés. En janvier 1813, il a donné ordre d'en ramasser 10 000. Et il est allé jusqu'à incorporer 100 000 gardes nationaux, des gens de bien, des gens de famille. C'est l'armée supplétive de l'ordre pour la protection des fortunes. Où va-t-on avec de semblables mesures qui équivalent à des attentats ? En avril 1813, Napoléon réclame 180 000 hommes de plus et en octobre, il va lever par anticipation la classe de 1815. les insoumis foisonnent. Fin 1808 déjà, le rapport Lacué a évalué leur nombre à 377 000. Parmi ces réfractaires, un nommé J.B. Vianney, à qui l'enfer dont le menace le catéchisme n'a pas fait suffisamment peur, et qui deviendra le curé d'Ars.
C'est la vérité qui est coupable. Maximilien Robespierre. Napoléon, légende et vérité, d'Henri Guillemin, a été réédité en 2005 aux éditions Utovie.